Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Avec nos invités aujourd'hui, Madame Claude Revel et Christian Julienne, nous allons traiter d'un sujet, les think tanks, qui est un concept made in USA. C'est en fait en français des laboratoires de réflexion ou des réservoirs d'idées. Ce sont des institutions de droit privé regroupant des experts plus ou moins spécialisés émettant des idées dans les domaines économiques et des sciences sociales. Selon Michel Bon, qui a été un temps président de l'Institut de l'entreprise, ils permettent d'irriguer le débat économique et social. Aux États-Unis, où ils ont vu le jour, les think tanks ont pignon sur rue depuis longtemps, ils sont environ 1500. Ils ont pour vocation d'influencer les évolutions des grands dossiers économiques et politiques. Dans ces laboratoires de réflexion cohabitent à la fois les grands patrons, les chercheurs et les leaders d'opinion. En France, le développement des think tanks est plus récent, une quinzaine d'années, mais comme il commence à montrer une réelle influence, et selon François Dupuis, qui est l'ami de l'ami public, il observe que cette influence commence à se savoir dans les milieux politiques. Michel Pébreau et Claude de Bédégé sont des figures médiatiques de cette activité de think tank en France. L'intérêt des actions des think tanks reste, de façon indéniable, de faire avancer sur le marché des idées, des propositions transpolitiques, c'est-à-dire de la société civile et des professionnels. Au plan européen, la culture des think tanks se développe aussi très fortement, avec, on estime, plus de 700 structures dans les pays membres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon un sondage qui remonte à 2005, en particulier dans le journal du management, plus de 80% de ses lecteurs admettaient ne pas savoir ce qui se cache derrière cette formule. Et donc, légitimement, il nous a paru nécessaire d'en savoir un peu plus. C'est ce que nous allons faire donc dans ce nouvel éclairage, avec donc les deux invités, que je voudrais maintenant présenter un peu plus longuement. Alors nous aurons trois parties dans cet éclairage. La première nous permettra de voir quelle est la réalité des think tanks, c'est-à-dire leur contenu, ses acteurs, ses objectifs. Et en seconde partie, nous verrons les enjeux. Et je vous propose de terminer sur des expériences concrètes, et en particulier en mettant en valeur les forces et les faiblesses de l'exemple français, et j'espère plutôt d'ailleurs les forces. Alors je reviens sur la présentation de nos invités, que je remercie une nouvelle fois. Madame Claude Revel, qui a fait paraître il y a peu de temps un ouvrage qui a été très remarqué et que nous avons eu le plaisir d'ailleurs de chroniquer sur cette antenne, « Nous et le reste du monde ». Les vrais atouts de la France dans la mondialisation, un ouvrage qui est paru chez Saint-Simon, et a une formation, elle est énarque, elle est conseillère du commerce extérieur de la France. C'est une grande spécialiste de l'intelligence économique et c'est un auteur prolifique parce que au-delà de ce livre, il y a eu d'autres parutions qu'elle nous rappellera tout à l'heure, mais qui ont en son temps particulièrement marqué un large public. Que dire de plus? Peut-être que vous nous apporterez des compléments tout à l'heure. Et vous êtes bien entendu, en particulier dans ce dernier ouvrage « Nous et le reste du monde », vous êtes préoccupé et intéressé particulièrement au sujet des think tanks. Quant à Christian Julienne, il est le fondateur du think tank « Héritage et progrès ». C'est un expert très connu de la politique du logement. Il a d'ailleurs fait paraître en 2006, si mes souvenirs sont bons, un ouvrage qui s'appelle « Logement, solution pour une crise fabriquée chez les belles lettres ». Un ouvrage, je crois que c'est pas un secret, qui a très largement inspiré la politique gouvernementale du logement. Christian Julienne n'est pas simplement un spécialiste du logement, il est aussi un expert reconnu en matière d'énergie et de transport. Il a d'ailleurs, à ce titre, en 2000, si mes souvenirs sont bons, été nominé au prix Turgot pour son ouvrage « Le rail
est-il libéral ». Le diable est-il libéral?
Le diable est-il libéral? Je vous avez fait aussi paraître un livre qui s'appelait L'oreille et la route, si je me souviens bien. D'accord. Voilà, donc nous sommes avec deux experts de ce sujet et nous allons immédiatement rentrer dans le vif en commençant par vous, Claude Revel. Peut-être pouvez-vous nous donner une définition précise de ce concept Made in USA, comme je le disais tout à l'heure, de think tank et de sa réalité française.
Et merci. Le think tank, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un laboratoire de pensée, c'est un réservoir à idées. Donc le think tank, en fait, c'est deux choses. C'est la pensée, la production de pensée, et c'est l'influence sur cette production de pensée. D'ailleurs, on produit de la pensée non pas comme dans un institut académique pour le plaisir de penser, encore que c'est un grand plaisir, mais
ça peut être un grand plaisir,
mais aussi pour que, entre guillemets, ça serve à quelque chose, donc pour que ça puisse être décliné en loi, en normes, en ce qu'on veut, enfin en proposition, etc.
D'action.
En proposition d'action, c'est ça. Et je reviendrai sur le fait que c'est effectivement spécifique aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça a rempli une vraie fonction démocratique. Enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
D'accord. Donc voilà pour la grande définition. Et en ce qui concerne donc le mode opératoire, les cibles, ça se passe comment, Christian? Non mais c'est comme on le veut.
Hein. La cible, Christian Julien. La cible par définition, c'est le politique. Je crois que Madame Revel a parfaitement défini la chose. Le think tank, c'est un club de, enfin, c'est un groupe de réflexion, d'études, de pensée, mais qui a vraiment pour but de déboucher sur la politique. Et le gros travail, c'est effectivement de savoir comment on peut faire passer des lois, des amendements, des décrets, des éléments juridiques qui permettent d'influencer
la vie
sociale.
Quelle différence avec les cabinets de lobbying ?
La grosse différence avec le cabinet de lobbying, c'est que le cabinet de lobbying, on lui apporte un projet étouffé. Par exemple, la SNCF fait du lobbying. Elle prend un cabinet et elle dit « je vais défendre la politique du rail ». Les HLM font du lobbying. Ils vont prendre un cabinet et défendre la politique du logement HLM.
Alors,
un think tank a par définition une pensée beaucoup plus générale, sinon il échouerait, et plus sociétale, si vous voulez. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, de monter un think tank pour défendre la politique de la SNCF. Par contre, un think tank a pour but de travailler sur l'ensemble de la politique des transports, de dégager ce qui paraît prioritaire pour une meilleure efficacité, pour un meilleur développement durable des transports, et de le faire passer. Bien sûr, ce think tank va plutôt prendre parti à un moment ou à un autre pour le rail ou pour la route, mais s'il ne le fait pas d'une manière globale, sociétale, et en ayant un certain sens de l'intérêt général, ça passera pas.
D'accord. Parce qu'il y a effectivement des think tanks.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, Claude, parce que c'est important, ça. C'est effectivement, on ne fait pas dans le lobbying. On fait d'abord de l'étude de fond, du travail de fond, et ensuite, on le transmet politiquement, comme le lobbying.
Ah, moi, je suis totalement d'accord. Je pense qu'effectivement, la dimension du think tank, c'est que d'abord, il est en amont par rapport au lobbying.
Oui.
Il fournit un contenu, en quelque sorte, un vrai contenu. Et deuxièmement, c'est ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison, il doit montrer la dimension d'intérêt général. Enfin, vous avez appelé l'intérêt général pour montrer en quoi la nouvelle pensée qu'il vient de produire correspond à l'intérêt des citoyens, enfin, en quelque sorte. Donc, il doit avoir une vision générale, quitte alors, évidemment, c'est toujours un peu orienté dans un certain sens, un think tank qui est rarement totalement neutre. Mais quand même, il doit fournir un contenu qui est argumenté, qui est digne de ce nom, qui fournit des raisons réelles. Donc, alors que le lobbying, ensuite, c'est vraiment, c'est une méthode. Le lobbying va utiliser éventuellement le contenu qui aura été élaboré par un think tank en le résumant, synthétisant, l'adaptant, etc.
C'est ça.
Parce que le think tank a quand même une vraie dimension intellectuelle. C'est pas du tout, il ne faut pas le confondre avec simplement de l'argumentation de lobbying. Hein.
Tout à fait. Donc c'est la pensée, vous le disiez tout à l'heure, plus l'influence.
Voilà.
Oui, mais c'est la pensée et c'est donc la réflexion. Alors, peut-être que c'est, on peut dire un mot des différences, ou en tout cas, ou des aspects un peu différents entre les think tanks, on va dire, d'origine américaine, parce que c'est quand même bien là où l'histoire a commencé, et les think tanks plus récents que l'on trouve en particulier en France, mais peut-être en Europe. Christian, alors, peut-être qu'à ce stade, pour illustrer cette différence, vous pourrez nous parler de votre think tank.
Mais Non, je commencerai, si tu veux, d'abord très rapidement par les think tanks américains, parce que j'ai créé Héritage et Progrès, effectivement, d'abord en allant passer 15 jours à Washington.
Oui, d'accord.
Parce que quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, c'était pas une idée géniale, hein, c'était une idée qui banale, mais quand j'ai pensé think tank et je me suis dit, puisqu'aux États-Unis, ça a l'air de beaucoup se développer, pourquoi ne pas en créer un en France? J'ai d'abord été voir ce qui se passait à Washington pendant 15 jours. Et j'ai été, je dois dire, pas étonné, mais presque stupéfait par l'importance et la vigueur de la puissance des think tanks aux États-Unis. J'en ai visité un certain nombre, un peu les plus connus, Heritage, Cato Institute, l'Institut de l'entreprise, des think tanks spécialisés, par exemple, il y en a un qui ne s'occupe que du développement durable, ou plutôt de la critique des chevaliers de l'apocalypse, comme dirait Carl Hathaway. Un grand think tank américain, c'est un building, souvent deux d'ailleurs, il se trouve, je pense à l'un des deux, où il y a deux immeubles l'un à côté de l'autre qui font chacun 10 étages, avec des dizaines de bureaux, pour ne pas dire des centaines, les bureaux étant souvent marqués du nom du donateur.
Très américain.
Très américain, etc. Et les think tanks américains font un travail de fond considérable. Ils sortent normalement plusieurs dizaines d'ouvrages chaque année. Ils ont derrière tout un appareil de diffusion de ces ouvrages par des revues, par des journaux, par des lettres confidentielles, par des documents transmis sur Internet en permanence à des fichiers d'élus, etc. Enfin, c'est vraiment bon. Alors, je n'ose même plus parler d'Héritage et Progrès après avoir dit
ce qu'il faut bien se rappeler, c'est donc la dimension et c'est aussi les moyens financiers dont ils disposent.
Bien sûr,
en fait, le nerf de la guerre, c'est un petit peu ça. Ce sont des budgets absolument considérable, oui, des dimensions fantastiques, etc. Oui. Mais il y a aussi peut-être aussi l'antériorité. Alors après, on revient maintenant dans le cadre français. Donc, ton aventure, elle commence à quel moment ?
Eh ben, elle commence au moment où, si tu veux, je me suis rendu compte effectivement de ce que c'était qu'un think tank américain. Donc je suis revenu avec un certain nombre d'idées en disant d'abord il faut avoir des idées très claires. On ne monte pas un think tank sans idéologie, si je peux dire, à la limite. Donc voilà, vous êtes plutôt libéral, plutôt conservateur, plutôt socialisant, plutôt productiviste, plutôt bon. Il faut avoir des idées claires sur ce qu'on veut défendre. Et il faut s'y tenir. Je veux dire, c'est un peu le contraire de la démagogie et de la pensée politiquement correcte. C'est-à-dire que si vous vous écartez de vos idées, vous assez vite, vous serez plus pris au sérieux. Donc, il faut avoir une ligne politique. Ça ne veut pas dire de gauche ou de droite, hein. Moi, je suis, par exemple, un libéral dans le domaine de l'économie, du logement et de l'urbanisme. Mais je veux dire, j'essaye de défendre ces idées libérales aussi bien auprès de la gauche, d'une gauche moderne, disons, que d'une... mais avec des idées claires. Voilà, c'est très important. Et deuxièmement, il ne faut pas non seulement avoir peur de l'argent, mais il faut se dire on ne peut réussir que si on a un peu d'argent. Donc, on essaye d'avoir des membres individuels, ça c'est très important. Aux États-Unis aussi, les plus grands think tanks sont financés avec des dons considérables de grandes entreprises, mais beaucoup d'adhésions individuelles, de gens qui vont payer $50 ou $100 dans l'année. Donc, je me suis dit, il faut les deux. Il faut que j'ai un certain rayonnement, donc que j'essaye d'avoir plusieurs centaines de membres, personnes physiques. Mais je ne ferai rien si j'ai pas un certain nombre d'entreprises qui me donnent 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, parce qu'on peut pas travailler sans argent. Voilà. Donc c'était les deux idées de base, c'est des idées claires, des membres individuels et des membres donateurs entreprises.
D'accord. Alors, ça va peut-être compléter ce que tu viens de dire. Je me tourne vers Claude Revel, qui donc, je le citais tout à l'heure, dans son ouvrage, page 139, donc fait un diagnostic de la situation française en rappelant ce qu'est donc le think tank. Pourquoi donc la France a eu ce retard ? Y a-t-il des blocages ? Quels sont-ils ? Etc.
Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, comme on vient de le dire, aux États-Unis, les think tanks sont très puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils remplissent une fonction démocratique, comme je disais tout à l'heure. Ils ont une vraie fonction. C'est dans la démocratie américaine, c'est-à-dire qu'ils sont un contre-pouvoir. Ils sont, on considère, c'est un peu comme les lobbies. Bon, on considère qu'ils sont là pour exprimer des sensibilités, des opinions, etc. Et pour éclairer le gouvernement qui, par ailleurs, est relativement réduit par rapport à un gouvernement comme on peut en connaître en France. C'est l'État faible, mais qui, enfin, entre guillemets, peu nombreux, et qui est éclairé par des expressions privées. Et le think tank est là pour donner des arguments. Ça, c'est une première chose. Donc, comme il fait partie de ce fonctionnement démocratique, il a évidemment trouvé beaucoup plus de financement de la part de ceux qui voulaient exprimer leurs intérêts, qui sont souvent les mêmes que ceux qui font des lobbies. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas pareil. Mais bon. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a une valeur de l'information. Ça, j'y tiens beaucoup. J'en parle beaucoup dans mon livre. En dehors même de la fonction démocratique des think tanks, l'information, ça se paye. C'est un produit. Ça existe, même si ça ne se voit pas. C'est comme un matériau, si vous voulez.
C'est immatériel.
C'est un matériau immatériel, si on peut dire. Et ça se paye. Et donc, vous voyez ça dans toute la déclinaison. Le conseil, ça se paye, cher. Et donc, l'information a une valeur, voilà, à un prix. Voilà. Et donc, on considère comme normal de verser beaucoup d'argent à des gens uniquement pour penser, des penseurs qu'on paye pour penser. Alors qu'en France, penser, ça semble totalement dénué. Il y a un tel cloisonnement entre la pensée et l'action. C'est réservé aux universitaires, alors qu'aux États-Unis, on considère qu'au contraire, c'est le début d'un processus après. Alors en France, pourquoi est-ce que finalement il y a des think tanks?
Quels étaient les freins, quoi, en fait? Ouais.
Mais parce que en fait, on est influencé par ce mode de fonctionnement anglo-saxon, tout simplement parce que du fait du rayonnement de ces think tanks, ce mode de pensée anglo-saxon est en train de se répandre un peu dans le monde, parce qu'on n'a pas abordé le fait que ces think tanks, ils ont un rayonnement international. On parlait tout à l'heure de Cato et etc. La Brookings, la Rand, etc. sont des gens qui sont cités dans le monde entier. Trouver un think tank français, franchement, qui soit cité dans le monde entier, vous n'en trouverez pas. Alors c'est vrai qu'il y a l'histoire de l'antériorité, mais je crois qu'on a quand même pas mal de choses à rattraper dans l'esprit même. Si
tout à fait. Mais alors, donc, on parlait des freins. Je me souviens justement que dans votre livre, vous citez fort justement notre ami Christian Julienne, qui disait quelque chose comme la méfiance des dirigeants actifs par rapport donc aux think tanks est aussi importante que les think tanks par rapport aux dirigeants actifs. C'est de toi, je ne sais pas si tu t'en souviens. En tout cas,
je vous ai cité dans le livre. C'est ce que vous aviez dit au colloque du
Sénat. Oui.
Donc, c'est effectivement un frein. Rejoint le frein culturel à la matière.
Ça s'ajoute à ça le fait que la France a une économie qui est tellement imbriquée dans l'État.
Place de l'État.
Dirigisme, la place de l'État est tellement forte que beaucoup de membres de think tank hésitent à se faire connaître et même à y rentrer. Je peux vous dire qu'assez curieusement, j'ai remercié dans cet ouvrage tous les gens qui participent,
solution pour une crise de fabriquer.
À Héritage et Progrès. Et avant, j'ai mis un petit mot à chacun par mail en leur disant, je vais vous citer, est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, j'ai eu deux de mes plus gros donateurs qui m'ont dit non, vous ne citez pas notre nom. Parce que comme je donne des tendances qui sont un peu iconoclastes, qui n'ont rien d'iconoclaste, mais des propositions de réforme qui vont en gros contre le sentiment de la pensée dirigeante dans le domaine de la politique de l'urbanisme et du logement, ces promoteurs ne tenaient pas à ce que leur nom y figure. Tout... Alors qu'aux États-Unis,
ils en seraient fait une promotion
de réforme.
D'accord. Alors, on revient peut-être un peu plus complètement sur l'activité donc de think tank à la française. Premier point, il y a des think tanks qui sont, on va dire, très spécialisés sur le national. C'est un petit peu dans le cas. Et d'autres qui sont, on va dire, ça c'est plutôt la tendance américaine, très spécialisés sur l'international. C'est-à-dire que c'est la dimension mondialisation, monde qui est pris en compte. Alors, donc, là, le héritage et progrès est dans la case, en quelque sorte, spécialisation nationale, bien qu'elle intègre, bien entendu, la dimension. Donc, tu peux peut-être nous dire quels sont tes principal sujet de préoccupation, tes principaux sujets, et puis en plus, quels sont les outils dont que tu produis, parce que tu produis notamment une lettre qui est extrêmement intéressante, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.
Alors, on s'est rendu compte très vite, effectivement, que compte tenu de nos moyens financiers, c'était tout à fait inutile de travailler sur l'ensemble des problèmes de société. On ne vise pas, je dirais, le généralisme. Il y a deux organismes qui, à mon avis, en France, le visent assez bien. C'est l'Institut Montaigne, qui couvre à peu près tout le champ des problèmes de société, et puis un petit peu moins, mais quand même l'Institut de l'entreprise qui couvre aussi assez bien tout le champ de l'entreprise. Nous nous sommes fixés en gros un premier objectif qui est la politique du logement au sens large, depuis l'urbanisme jusqu'à la technique de construction, donc tout ce qui touche au logement, et on s'est contenté de ça pendant les deux premières années, et la troisième année, on a ouvert un deuxième chantier qui est la politique de la ville. pas du tout d'ailleurs au sens de la rénovation urbaine, mais plutôt de la politique de la ville, comment remettre les gens dans le fil de la vie sociale. Donc plutôt tous les problèmes éducatifs, de formation, d'emploi, etc., qui touchent à la politique de la ville. Voilà, ce sont les deux secteurs sur lesquels nous travaillons.
D'accord. Et concrètement, aujourd'hui, est-ce que déjà propositions...
Oui, alors on y travaille de façon bien claire. Hein. Je dirais que dans chaque cas, on procède de la même manière. La première année ou la première année et demie, je dirais, on ne fait que du travail de fond. Bien sûr, pour faire ce travail de fond, on va voir les grandes directions des ministères, les agences publiques s'occupent de ceci ou de cela, les organismes qui peuvent nous donner de la formation, mais en gros, on fait vraiment un travail de fond. Et une fois que le travail de fond est à peu près accompli, on dit maintenant il faut le faire passer au niveau politique. Donc il y a un peu de temps. Et je dirais que depuis un an, je fais très peu de travail de fond et énormément de lobbying politique parce que le travail de fond est à peu près terminé. On sait à peu près quelles sont les grandes tendances sur lesquelles il faut agir pour faire évoluer la politique du logement. Et à partir de là, il faut le faire passer sur le plan politique. Et ça, c'est un travail considérable dont les gens n'ont pas idée. Sans aucune fausse modestie, je suis un peu par le hasard des choses, enfin, pas par le hasard des choses, par le travail qu'on a fait, le conseiller à la fois du cabinet de Sarkozy, du cabinet de Fillon, du cabinet des ministres intéressés, il y en a deux, Bourleau et Boutin, et donc le travail permanent, c'est de dire en gros qui a le plus d'influence et comment surtout, faut même pas, au bout d'un moment, on voit bien que surtout aujourd'hui, tout se décide en gros au niveau de la présidence de la République, mais comment préparer les choses par une action concertée. Donc il faut jouer en gros sur une dizaine de conseillers ou de chargés de mission ministérielle, plus les ministres, et sans arrêt, leur envoyer des documents, des notes, etc. Sachant qu'une note bien faite ne doit pas dépasser 2 pages, l'idéal étant plutôt 1 page, mais on est quand même souvent obligé de mettre 2 pages. Bon, il m'est même arrivé quelquefois de faire des notes de 2 pages et demie, 3 pages. Mais on sait que ça n'est pas lu autrement. Mais on sait qu'il faut les faire, il faut les rabâcher, il faut les remettre sous une autre forme, il faut sans arrêt. Bon, à la suite de quoi, on arrive à faire des choses. Moi, je suis moi-même relativement étonné, mais je trouve que dans le domaine de la politique du logement, pour prendre un exemple, quand Nicolas Sarkozy a fait son grand discours sur la politique du logement hier à Nancy, d'abord, il m'a invité avec les 2 principaux syndicats professionnels français, mais enfin, on n'était que 3, le président de la Fédération des bâtiments, le président de la Fédération des promoteurs et moi, enfin, pas moi en tant que tel, moi en tant qu'Héritage et Progrès, et je dois dire que on avait beaucoup, beaucoup préparé ce discours. Bon, on savait qu'il avait lieu à telle date, donc on savait qu'il fallait absolument qu'on fasse passer un certain nombre d'idées, et jusqu'au dernier moment, si vous voulez, on a envoyé des notes, etc. Bon. Et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de conclusions qui sont parfaitement conformes à ce qu'on défend depuis 2 ans, quoi, depuis 3 ans.
Notamment sur la gestion des HLM, je suppose, j'ai entendu ça.
Voilà, sur la réforme de l'urbanisme, sur la réforme du système HLM, je dirais qu'on a franchement gain de cause, quoi, franchement. Par exemple, dans la réforme de l'urbanisme, on propose un nouvel instrument d'urbanisme opérationnel à côté des ZAC et des lotissement que Sarkozy a évoqué très directement. Il n'a pas évoqué de façon générale. Il a dit l'idée d'un partenariat public-privé et du retour de la ZAC privée dans l'urbanisme est une excellente idée qu'il faut mettre en place. Sur la réforme HLM, on a proposé effectivement une demi-douzaine de choses qu'il a en gros presque tous repris dans son discours d'hier.
D'accord. Donc on voit qu'il y a des exemples français, Claude Revel, qui marchent. Alors ce sont des think tanks spécialisés. Si vous voulez bien, on va marquer une pause et on reprendra tout à l'heure pour parler des exemples beaucoup plus généraux et surtout ce qu'il faut faire pour donner plus d'atouts concurrentiels à la France. Merci. Thank you. Bien, alors donc, nous avons parlé des think tanks et avec un excellent exemple, celui de Christian Julienne, donc français, spécialisé sur le national, mais bien entendu, la dimension internationale dans le jeu de la mondialisation est absolument déterminante. Et là, Claude Revel, c'est ce sujet plus particulièrement que vous avez traité dans votre diagnostic et dans vos, entre guillemets, critiques qui sont très argumentées et très, très complètes dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Nous et le reste du monde », les vrais atouts de la France dans la mondialisation. Alors, quid de l'international ?
Oui, les think tanks, donc la production d'une pensée, peut être un vrai atout concurrentiel à l'international. Parce que y a pas, la mondialisation, ce n'est pas qu'une mondialisation économique. Hein, elle est évidemment économique, mais elle est juridique. Et elle est de système de pensée. Il y a une énorme concurrence, je crois que les gens, compétition plutôt, dans les, peut-être qu'on ne se rend pas assez compte, entre les systèmes de pensée dans le monde et ce qui veut dire aussi des lois derrière, des normes, et donc qui nous atteignent très directement dans notre vie quotidienne. Hein.
Alors c'est quoi les systèmes de pensée différents ?
Alors, il y a des systèmes, les deux grands systèmes qui sont en train de se battre pour... le grand système qui a pris plutôt la domination pour l'instant dans les normes et règles internationales, c'est quand même le système, la manière de penser anglo-saxonne, c'est une évidence. Sans aucune acrimonie, enfin c'est la vérité,
c'est un constat. Elle est complètement dominante.
Elle est complètement dominante, mais attendez, alors c'est là qu'on revient au think tank. Pourquoi elle est dominante ? Parce que pour eux, la pensée est une forme de, est une forme d'action. On revient à ça parce qu'ils ont des think tanks suffisamment importants, riches, etc., pour que cette pensée rayonne en dehors des États-Unis, et parce qu'ils ont compris le lien pensée-action, c'est-à-dire qu'il s'agit, on ne fait pas que penser, on ne fait pas qu'agir, on agit pour penser et on pense en agissant, si vous voulez. Et par exemple, et qu'ils ont donc anticipé. Du coup, ils ont anticipé cette mondialisation et cette compétition des idées. Et je peux vous dire que dans tous les lieux du monde, multilatéraux, publics ou privés, où se forment les règles, les normes, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit dans les organisations des Nations Unies, ou dans les organisations privées, comme la Chambre de commerce internationale, des choses comme ça, bon, vous avez toujours des Américains, ou alors plus largement Britanniques, Anglo-Saxons, enfin Australiens, etc., qui sont là pour défendre le mode de pensée américain ou anglo-saxon dans le domaine. Bon. Et la plupart du temps, ce mode de pensée, il a été étayé, si vous voulez, avant, par un think tank, souvent. Au point que même les institutions internationales ont des think tanks. La Banque mondiale, elle a le World Bank Institute, qui est son think tank. Alors vous allez dire, tout ça, c'est un peu fumeux, c'est tout à fait très concret après, parce que, par exemple, qu'est-ce qu'il fait le World Bank Institute ? Il réfléchit sur le développement des pays pauvres. Et alors, il réfléchit évidemment à l'américaine, puisqu'il est à Washington et qu'il y a quasiment que des Américains là-dedans. Et donc, il propose des conditions de good governance. Il dit, les États, on peut les financer que si ce gouvernement... Et c'est quoi la good governance ? Il propose des critères de good governance.
C'est leurs critères.
Et c'est leurs critères. Et après, ça devient quoi, les critères ? Ça devient des critères de conditionnalité. Et après, on donne l'argent, on revient à l'argent concret, là, on en revient vraiment aux dons, aux prêts, etc., selon ces critères-là. Donc, au total, on aura formaté, à partir d'une pensée, on aura formaté des financements. Donc et des marchés, donc derrière, des marchés remportés par telle ou telle entreprise.
En fait,
on aura structuré, vous voyez, le lien, j'essaie de vous donner un exemple entre le lien pensée-action. Et donc ça, et là, malheureusement, on doit dire que la pensée française, elle est quasiment pas présente. Enfin, pourquoi ? Parce qu'on est très peu présent. Enfin, quand on est présent, je peux en parler longuement, parce que j'ai beaucoup à reporter, j'étais toujours la seule française, ou très peu, enfin, où on était très peu de Français, dans ces organisations internationales, où se fait vraiment où se font les règles, etc. Bon, et donc on n'est pas présent. Quand on est présent, on n'a pas tellement bien préparé les choses. Tout ce que vous disiez tout à l'heure pour la France, vous le faites, c'est très bien, mais c'est exactement ce qu'on devrait faire dans les
politiques internationales.
C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Seulement, il y a très peu. Et en plus, il faut qu'on ait une pensée un peu spécifique. Parce que ce que je développe aussi, c'est qu'on a, bien qu'il soit, usé, il ait des problèmes, etc., on a un modèle quand même spécifique français. Bon, il faut complètement le réformer, on est bien d'accord. Cela dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a quand même le partenariat public-privé, des choses comme ça, qui sont des vraies spécificités, nées de l'expérience, enfin bon, on pourra en trouver plein d'autres, qu'on pourrait défendre à l'international. Au lieu de quoi, on ne le fait pas. C'est dommage. Il ne s'agit pas d'être anti, il s'agit d'être complémentaire et de faire de la diversité.
Tout à fait. Mais les grands instituts que tu avais cités, Christian, tout à l'heure, comme l'Institut de l'Entreprise ou Entreprise et Progrès, ils n'ont pas cette dimension internationale, ils n'ont pas.
Non, très peu.
Très peu.
Il commence à y avoir quelques think tanks français, un peu européens. Il y en a quand même quelques-uns. Mais la pensée française, elle est très peu présente.
D'accord. Oui, alors donc, c'est, effectivement, on comprend mieux en quoi...
Si tu permets, je vais faire une incidente dans le même sens sur le poids des idées, la réalité. Je viens de lire un bouquin extrêmement intéressant qui est l'histoire de la pensée libérale en France depuis 1910, en gros, enfin un peu avant la guerre jusqu'à aujourd'hui, qui met en valeur deux choses que ce bouquin rappelle, mais que je connaissais, mais que ce bouquin rappelle très bien. C'est l'importance d'un homme, finalement, d'un petit groupe d'hommes, et d'un très grand colloque qui s'est tenu à Paris en 1938, qui était le colloque organisé autour de Walter Lippmann, et avec comme thème la cité libre, et qui a réuni en gros un peu tous les libéraux européens et américains à Paris. Et derrière, la création de la Société du Mont-Pèlerin par Hayek, Popper et un certain nombre d'économistes et de philosophes libéraux. La Société du Mont-Pèlerin a joué un rôle énorme. On peut dire que tout le succès de l'économie de marché aujourd'hui, enfin toute la dominante de l'économie de marché aujourd'hui et de la pensée anglo-saxonne vient de la Société du Mont-Pèlerin. Oui. Cette pensée, bien sûr, elle n'en a retenu qu'une partie. La Société du Mont-Pèlerin a été un peu excessive dans le domaine du libéralisme. Je dirais que c'était des libéraux purs et durs et un peu ultra-libéraux. Mais elle a profondément marqué en gros toute l'économie de la deuxième moitié du XXe siècle. Si le libéralisme a réussi aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc., elle le doit beaucoup à la Société du Mont-Pèlerin. Il n'y a rien de ce genre en France aujourd'hui, ni à gauche ni à droite.
Mais c'est aussi parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est lié à la conception de l'intérêt général et de l'État qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on a un État qui lui-même représente l'intérêt général. Donc il n'a pas besoin d'avoir...
Il capte.
Donc il n'a pas besoin d'avoir les intérêts privés qui s'expriment. Au contraire même, il s'en méfie. Parce qu'il considère que c'est forcément pour faire du trafic d'influence, pour faire les choses. Alors que c'est vraiment une conception radicalement différente qui vient des États-Unis. Et le problème, c'est qu'actuellement, c'est cette conception-là qui s'est répandue au niveau mondial, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, et qu'il faut bien jouer avec ces codes-là maintenant, tout en défendant les nôtres. Mais enfin, pour l'instant, il faut quand même jouer. Sinon, on est exclu. Voilà.
Et c'est tout à fait, enfin, je vous cite ce que vous disiez dans votre ouvrage. Le monde de la pensée n'a pas joué encore en France son rôle d'éclairage et d'ouverture qui revient aux intellectuels. Et c'est absolument. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est pas simplement que des structures, c'est que c'est bien sur le plan culturel, on va dire, du mode de pensée que se pose le.
Mais alors, à la limite, on pourrait dire, que les think tanks existent peu en France, etc., mais il y a d'autres gens qui produisent de la pensée. On a, par exemple, les rapports parlementaires qui sont souvent excellents, les rapports du Conseil économique et social, etc. Oui. Mais comme on n'est pas habitué à la valeur de l'information à la valeur de la pensée, ils sont en général gardés dans un coin par les décideurs, par les exécutifs, comme vous faites le gros lobbying, etc. Parce qu'on considère, là on revient à ce qu'on disait aussi, que la pensée finalement est détachée de l'action. Donc les rapports parlementaires, c'est très bien, c'est très intéressant, mais enfin, le décideur, lui, c'est en gros ce qu'il a à faire.
Alors on va peut-être revenir d'un mot sur héritage et progrès. Tu diffuses, c'est ce qui m'a fait penser tout à l'heure, donc une lettre mensuelle, si mes souvenirs sont bons, dans lequel effectivement, notamment, tu donnes un avis sur les parutions, mais sur bien d'autres points. Et tu peux peut-être nous dire un mot de cette lettre. Quelle est la cible? À quoi sert-elle? Et comment on peut d'ailleurs se la procurer?
Alors la cible, c'est nos adhérents et puis les amis de nos adhérents. Enfin, donc on essaye d'avoir évidemment d'élargir notre fichier. Elle est très peu diffusée. Elle est diffusée en gros à moins de 2000. On doit être à 1500.
C'est la qualité qui l'emporte.
1500 exemplaires. Entièrement par Internet, mais on en envoie quand même à peu près 150 par courrier, soit à des gens âgés, soit parce qu'on veut qu'un certain nombre de parlementaires, de cabinets ministériels ou autres aient l'écrit, c'est-à-dire n'aient pas à faire l'effort d'imprimer la lettre. Donc on l'envoie quand même par lettre. Alors, à côté de notre fichier général, ce qui est beaucoup plus important, on a un fichier de parlementaires qui est très, très ciblé et qui comprend aujourd'hui à peu près 150 parlementaires, plus les ministres et tous les cabinets ministériels qu'on met systématiquement en fiche. Dans cette lettre, on tient beaucoup à avoir en gros deux tiers articles d'actualité et un tiers critique d'ouvrage, critique de livre. Et exactement parce que, comme le dit Claude Revel, ce qui est fondamental, c'est la pensée. Donc On essaye à chaque fois de faire des comptes rendus de livres assez approfondis, bien sûr, dans les disciplines qui nous intéressent et autour des idées qui nous intéressent. Mais quelquefois aussi, mais autour d'idées contradictoires. Par exemple, je rends beaucoup compte d'ouvrages d'économistes américains ou de philosophes libéraux, etc. Mais quelquefois, je rends compte d'ouvrages clairement altermondialistes ou marxistes, mais rapidement, et pour dire, ben, quand même, c'est des gens qui, on pense d'une façon assez approfondie, c'est intéressant de les lire, ou au contraire, c'est vraiment trop mauvais, c'est un peu le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Mais, donc, j'essaye de ne pas être exclusivement de compte rendu. C'est très important et ça nous donne une image très forte. Je peux te dire que très récemment, enfin quand même sans citer de nom, un président de commission à l'Assemblée nationale m'a favorisé très très facilement, si tu veux, un entretien au plus haut niveau en me disant « Monsieur Gien, je trouve votre lettre remarquable, je la suis régulièrement à cause des critiques de livres et voilà ».
Donc c'est pas forcément réservé donc aux adhérents, parce que je suppose que tu as un site et que on peut se aller sur le site.
Je mets la plupart des articles de la lettre sur le site et notamment les critiques de livres.
D'accord, donc ça c'est très important. Autant en faire.
Non, il y a un gros répertoire.
Autant en faire profiter.
Dont on a rendu compte. Oui.
Autant en faire profiter le plus grand nombre. Alors je vous propose que nous marquions une dernière pause avant de conclure et de conclure surtout sur que peut-on faire pour rattraper un petit peu notre retard et faire progresser la pensée française. À tout à l'heure. Bien, eh bien écoutez, nous reprenons cet éclairage sur les think tanks. Christian Julien, qui nous a très largement présenté son think tank et en particulier sa lettre particulièrement intéressante, rejoint ses occupations et en particulier pour travailler sur une action qui lui tient à cœur, qui touche au logement. Mais nous allons conclure avec Claude Revel. À partir d'ailleurs de son ouvrage, que je rappelle, « Nous et le reste du monde, les vrais atouts de la France dans la mondialisation », paru chez Saint-Simon, sur, en quelque sorte, les chemins et les voies que nous devrions emprunter en France pour au moins tenter de rattraper notre retard, et en particulier, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, sur l'international. Alors, que faire, Claude ?
Quelle piste ? Il y a plusieurs niveaux de pistes. Un peu concret, c'est que je pense que les acteurs économiques privés français devraient peut-être prendre un peu conscience de leur rôle nouveau dans la mondialisation. Parce que bon, on a de très grandes entreprises qui marchent très très bien et qui font des merveilles dans le monde, c'est très bien. Seulement, les grandes entreprises, maintenant, elles ont aussi des rôles qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont
de responsabilités plus larges,
y compris de produire de la pensée. Donc, il me semble que les grandes entreprises françaises, ou les organisations professionnelles, enfin tout ce qui est secteur privé, peut-être devraient un peu prendre conscience de cet intérêt de promouvoir ce qu'ils pensent à l'extérieur de nos frontières pour avoir d'abord des règles et normes qui nous soient plus favorables, qui nous correspondent plus. Et puis deuxièmement, j'irai par citoyenneté, parce qu'après tout, s'ils ont réussi, c'est aussi grâce à la France, hein, c'est grâce au droit français. Et là, je voudrais dire une chose, c'est que le droit est un vecteur d'influence absolument phénoménal et qu'il faudrait aussi que nos entreprises se rendent compte, et notre État, qu'on peut utiliser le droit comme vecteur, ou au contraire se faire complètement influencer par des règles de droit.
Le droit et la finance, puisqu'on a vu ce qui s'est passé avec les normes
financières. Alors, prenons ça, excellent exemple, c'est très concret. Les normes financières et comptables se sont élaborées dans un institut, justement, qui est une sorte de think tank, l'IASB à Londres, depuis plusieurs années, c'était pas secret du tout. Il y avait les meilleurs experts comptables du monde, bien entendu un seul Français au milieu de tout ça, mais enfin bon. Et nous, on avait des conceptions, toujours est-il, on va pas il faut aller très vite, mais les conceptions, disons, des experts comptables, toujours pareil, anglo-saxons, se sont largement imposées et diffusées. Et justement, non pas imposées, mais diffusées parce qu'ils les ont argumentées, etc. Bon, nous, on l'a pas fait. Peut-être que là, c'est très complexe parce qu'il y a peut-être des gens qui avaient intérêt aussi à ne pas le faire, etc. Hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais enfin, toujours est-il qu'ensuite, on a quand même eu pas mal de monde en France qui s'est mis à pleurer au moment où les normes comptables ont été adoptées par la Commission européenne. Trop tard. Alors, avec des combats d'arrière-garde pour faire changer tel ou tel IAS. Enfin, bon. Et alors qu'il eût été quand même relativement simple, surtout qu'en plus, on avait une pensée, nous, déjà, et de la faire valoir dans les lieux idoines. Ouais. Et cette histoire, elle se reproduit quasiment dans tous les domaines. Moi, je la vois dans plein de domaines économiques.
Mais d'ailleurs, vous le dites dans votre ouvrage, est-ce que ça ne rejoint pas, ou c'est pas complémentaire avec la problématique des réseaux professionnels notamment, parce que j'ai en tête un exemple de réactivité contre domination exagérée des réseaux anglo-saxons. Vous savez que William Naum, c'est vous qui m'y faisiez penser tout à l'heure, qui est donc le président de l'Académie des sciences techniques et financières, a créé cette académie précisément pour contrebalancer l'influence des réseaux omnipotents, omniprésents anglo-saxons. Ouais. Et finalement, en peu de temps, 5 ou 6 ans, il est arrivé à construire des réseaux. Et il est évident que ces réseaux, je crois qu'il a 50 000 adhérents, quelque chose comme ça, que ces réseaux viennent effectivement en renfort des think tanks, ou enfin en dehors de certaines structures qui peuvent être un petit peu isolées, et que probablement que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je pense que vous dites d'ailleurs.
Non, absolument, il y a la pensée d'un côté, il y a l'influence, mais alors comment on influence? Alors on entre dans la méthode, effectivement, le réseau est tout à fait important, le réseau au bon sens du terme, c'est-à-dire des tas de gens, alors là au niveau du monde, donc, qui dans divers lieux du monde pensent à peu près comme vous. Bon, alors pensons ensemble, de préférence, si vous voulez. Et là, les Français seraient redoutablement bien armés si vous voulez les utiliser. Regardez tous les gens qu'on a formés dans nos écoles et qui sont retournés dans tous les pays du monde, qui sont souvent restés francophiles, si ce n'est francophones d'ailleurs, et puis même pas francophiles, mais qui sont d'accord pour dire qu'on a quand même des modèles qui fonctionnent pas trop mal. Bon, on les utilise très peu. Très peu. On a les conseillers du commerce extérieur de la France aussi, qu'on n'utilise pas assez.
Alors, c'est quoi le réseau des conseillers extérieurs de la France, justement?
Ce sont donc moi, il se trouve que j'en fais partie, mais ce sont des gens du privé qui sont nommés, donc il y en a 3600 dans le monde, qui sont, donc la moitié en France, la moitié à l'étranger, qui sont nommés par le Premier ministre pour donner bénévolement des conseils ou toute initiative pour promouvoir le commerce international français. Donc, des conseils auprès des pouvoirs publics. Pour les pouvoirs publics, je dois dire, moi je le dis très franchement, quitte à ce que ça déplaise, j'utilise très peu les conseils de commerce extérieur de la France. Alors moi j'essaie bénévolement de travailler dans ce domaine, dans le domaine justement de l'influence par le droit, qui est un sujet qui m'est très cher parce que j'ai vu comme ça fonctionnait concrètement et comment on pouvait relativement facilement arriver à des résultats. Bon, mais les pouvoirs publics n'en tiennent pas vraiment compte.
Mais parce que ce réseau donc des conseillers du commerce extérieur, il vit pas, les membres ne vivent pas entre eux, enfin il n'y a pas un effet de synergie.
Il devrait y en avoir. Ils sont à l'étranger dans tous les pays du monde. Ce sont des gens extrêmement compétents et de très grande valeur qui donnent une partie, qui effectivement donnent pas mal d'idées sur place aux ambassadeurs, aux missions économiques et financières, etc. Mais disons en tant que synergie de réseau, c'est pas encore ça. Alors, on a essayé, mais c'est pas encore
alors,
ça.
Est-ce que ça rejoint un peu le problème que vous décrivez avec une plume qui est un petit peu trempée dans l'acide, concernant, on va dire, la haute fonction publique et notamment une école que vous connaissez bien, l'ENA. Alors, bon, on va pas trop développer ce point, mais vous pouvez peut-être en dire un mot, parce que vous êtes critique, c'est évident, mais par ailleurs, vous êtes constructive et vous montrez des pistes en disant que rien n'est perdu, quoi, en gros. Hein.
Alors, rien n'est perdu. Effectivement, il ne faut pas être démagogique du tout. Donc, autant je suis la première à dire qu'il faut complètement revoir le contenu de la formation dispensée à l'ENA, et d'ailleurs à Polytechnique aussi. Hein, je veux dire, je n'ai pas spécialement contre l'ENA, et même dans les grandes écoles privées, je ne parle pas de tout, faut pas faire la révolution partout. Mais je veux dire, dans cette appréhension du monde, il y a une reformation totale à faire. Bon, on n'a pas le temps de développer, mais j'en parle dans le livre, mais pour vraiment une meilleure appréhension du monde. Bon, qui n'existe pas assez. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas se tirer la balle dans le pied de supprimer ces grandes écoles. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une compétition des idées, une compétition des systèmes de pensée. Et la vraie compétition actuellement que mènent, par exemple, les États-Unis et autres, ils ont tout à fait raison, même l'Inde, par exemple, c'est la compétition pour la formation des élites mondiales, des futures élites mondiales. À tel point que Harvard fait une école de management qui ressemble à s'y méprendre à une ENA, sauf que c'est d'origine privée, mais de management public. Management public. Oui. Parce qu'on sait qu'il va y avoir besoin d'élites mondiales de management public. Oui. Alors, ne nous tirons pas une balle dans le pied, que l'ENA devienne une de ces grandes écoles qui forment les élites mondiales, mais pour ça, il faut qu'elle se réforme quand même beaucoup.
Mais c'est-à-dire qu'elle s'ouvre sur le monde, en quelque sorte.
Il faudrait qu'elle s'ouvre. Alors, ça a commencé un petit peu. Oui. On considère comme extraordinaire qu'il y a un programme européen depuis 2 ans. C'est génial, c'est fabuleux.
D'accord. Bon, voilà.
Mais ça va dans le bon sens, mais il faudrait donner un coup d'accélérateur. Et puis, mais pour ça, il faudrait que ceux qui sont en place actuellement s'auto-révolutionnent aussi dans leur tête.
Donc, ce que vous dites rejoint très largement, bien sûr, ce que vous développez dans votre livre, mais on laissera au lecteur le plaisir de le découvrir. Donc, en synthèse, puisqu'on arrive au moment de conclure, qu'est-ce que vous nous dites ? Vous dites, un, que vous êtes critique, deux, que vous êtes, par contre, optimiste, et que trois, on a devant nous des moyens de rattraper au moins une partie de notre retard. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre de votre dernier développement, mais il y avait peut-être des points plus particuliers que vous vouliez développer.
On a tous les moyens de rattraper notre retard, mais à la condition que les élites, enfin, les décideurs, se changent vraiment leur mode d'appréhension du monde. Hein. Et ça veut dire, alors, en clair, ça veut dire qu'il y a une mentalité un peu plus anticipatrice. On anticipe absolument, on ne fonctionne que dans l'urgence, ce qui est bon. Et deuxièmement, et ça j'y tiens beaucoup aussi, c'est qu'au lieu de traiter les choses de manière cloisonnée, bon, les questions de logement, les questions économiques, ça va, bon, et techniques, on les traite de manière qu'elles s'insèrent dans un projet vis-à-vis du monde. Et ça n'existe pas. Je suis désolée, ça n'existe pas. On fait des petites mesures techniques qui sont bonnes en soi, mais qui ne s'insèrent pas dans une vision et donc qui n'ont pas l'impact qu'elles pourraient avoir. Et quand je pense que des pays comme le Brésil ont, depuis 20 ans, fixé leurs 20 priorités dans les 50 prochaines années, enfin, vous voyez, ils les tiennent. Enfin, bon. Donc, il faut qu'on soit anticipateur, décloisonné, et puis il faut qu'on fasse une vraie révolution, enfin, je ne veux pas faire peur, mais enfin, de la préhension de l'information. Donc, ça, y compris, je dirais même à l'école primaire, c'est-à-dire qu'on apprenne aux enfants qui seront citoyens mondiaux, hein, à savoir un peu mieux décrypter l'information. Alors, il ne s'agit pas de rajouter des programmes de plus, il s'agit d'insérer ça peut-être dans des programmes d'histoire, par exemple. Bon.
Donc cette ouverture sur le monde est tout à fait possible, mais elle est remise en cause.
Mais elle est tout à fait possible, et on dispose, je voudrais terminer là-dessus, on dispose d'un contenu qui est excellent. On a encore quand même de très bonnes formations intellectuelles. On a un modèle français qu'on peut largement quand même défendre malgré ses imperfections. Donc on a un énorme contenu. C'est une question de méthode politique.
Une méthode. Alors je reprends ce que disait un homme politique récemment. Et donc lui, là, il se tirait une balle dans le pied en disant « Quand le pouvoir politique navigue à vue, les think tanks peuvent s'imposer comme des contre-experts ». Donc, c'est une pensée que les think tanks ont devant eux un bel avenir. En tout cas, Claude Revel, merci encore pour votre éclairage, qui était particulièrement intéressant. Je rappelle avant de terminer le titre de votre ouvrage, Nous et le reste du monde, les vrais atouts de la France dans la mondialisation, paru chez Saint-Simon. Merci encore à vous.
Merci à vous.